Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils.
Bonsoir, vous êtes bien sur FPP 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous, animateurs de mode d'emploi, bénévoles et militants, faisons grève pour protester contre une censure qui s'est exercée contre nous la semaine dernière. Nous ne reviendrons pas sur les faits qui sont encore en débat à l'intérieur de la radio, mais nous vous proposons une émission sans animateur et sans invité. Par souci d'information, vous entendrez les commentaires du collectif ACDC sur la publication trimestrielle des chiffres du chômage par l'INSEE. Vous entendrez également la suite de notre série sur le statut des intermittents avec Antonella Corsani, économiste au CES Paris 1, qui va nous parler du nouveau modèle au-delà de l'assurance chômage dans le cadre des journées d'études à la Bourse du Travail du 19 janvier.
Pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments, viens lui parler doucement, pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Caline taquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy.
Bonsoir à tous. D'après l'INSEE, le chômage total au sens du Bureau international du travail est resté stable au quatrième trimestre 2010 avec 2 780 000 personnes inscrites ou non à Pôle emploi, soit 9,6% de la population active. Dans le même temps, le nombre de salariés contraints de travailler à temps partiel a encore augmenté de 90 000 personnes, ce qui représente 1 570 000 salariés à temps partiel subis. Rappelons qu'en 2008, entre 2008 et 2009, 500 000 personnes supplémentaires étaient venues grossir les rangs des chômeurs avant de connaître une très légère décrue et que les sous-emplois entre 2008 et 2010 s'est accru de 200 000 personnes. Parallèlement, dans son portrait social de la France de 2010, l'INSEE toujours a publié une statistique qui n'est pas passée inaperçue. En 2008, un quart des salariés en France ont perçu moins de 9 000 euros net par an, dont 3 700 euros net par an de revenus salariaux, ce qui représente respectivement en moyenne 750 euros par mois, dont 300 euros de salaire pour vivre bien entendu. C'est dans ce contexte que le collectif ACDC et les autres chiffres du chômage qui avaient contribué à la remise en question des chiffres officiels pendant l'élection présidentielle de 2007 a repris ses publications. Vous allez entendre l'économiste Pierre Concialdi et Ludovic Bourdet de la CGT INSEE. Oui, bonjour Monsieur Concialdi, donc c'est pour Mode d'emploi, l'émission d'AC. Quel est le sens de cette reprise de la communication ACDC, les autres chiffres du chômage?
L'objectif de la reprise des notes ACDC, c'est de remettre dans le débat public des éléments d'information à l'approche d'une échéance électorale majeure où on sait très bien que ces questions-là vont évidemment être débattues. Donc de rester vigilant déjà par rapport aux manipulations toujours possibles des statistiques des demandeurs d'emploi. Insister sur le fait, comme on l'avait dit à l'époque, qu'à côté du chômage, il y a des phénomènes de plus en plus difficiles qui se développent, notamment en termes de sous-emploi. Donc là, les derniers chiffres INSEE montrent qu'on a atteint en 2010 le plus haut niveau de sous-emploi depuis 20 ans. Donc c'est important évidemment de prendre en compte la question du chômage, mais aussi la question du sous-emploi et plus généralement d'ailleurs de la précarité ou des bas salaires. Mais malheureusement, on n'a pas d'indicateur là-dessus. On essaiera aussi, à travers ces notes, non seulement de suivre, d'être vigilant sur le système statistique, mais aussi d'apporter des éclairages sur d'autres questions qui concernent les chômeurs et aussi les salariés, comme l'indemnisation du chômage ou le bilan qui va être fait à la fin de l'année du RSA.
Vous dites qu'on n'a pas d'indicateur sur les bas salaires et la précarité. Pourtant, le portrait social de l'INSEE a publié pour la première fois donc des chiffres de salariés à temps partiel, en fait, enfin les chiffres du nombre de salariés à temps partiel. Et dans les chiffres de l'ANPE, on a aussi des gens, des chômeurs inscrits à temps partiel, et ça nous donne une indication. Vous estimez que enfin, ces chiffres ne sont pas tout à fait fiables ou qu'ils n'ont pas été assez fouillés?
Non, bah, les statistiques de temps partiel, on les a, encore une fois, hein, et on peut avoir des indicateurs de sous-emploi. Ce qui manque, c'est de savoir ce que les gens gagnent quand ils sont en emploi. Bas salaire, c'est ça, hein, c'est la rémunération attachée. Et donc ça, ça avait été fait, on l'avait fait à l'IRES et à la DARES aussi à la fin des années 90. Mais l'INSEE n'a jamais construit d'indicateur de bas salaire. Or, on sait pertinemment que c'est une question qui devient de plus en plus importante. Évidemment, on a davantage de risques d'être à bas salaire quand on est à temps partiel. Mais il n'y a pas forcément de. Mais la question, c'est combien les gens gagnent finalement au bout du compte lorsqu'ils ont un emploi, qu'ils soient à temps partiel ou à temps complet.
On peut supposer qu'ils gagnent toujours le SMIC, enfin horaire, au moins.
Dans les basses, oui, en théorie, ils devraient gagner au moins le SMIC horaire. Sauf que, enfin, il y a des situations même où on sait très bien, on ne sait pas les dénombrer, mais enfin, on sait certainement qu'il y a des gens qui excèdent leurs horaires normaux et puis qui pas forcément pour gagner beaucoup plus.
Enfin, la réforme donc des chiffres du chômage, enfin de la présentation des chiffres du chômage par la NPE ou enfin l'ex-ANPE et le Pôle Emploi favorise un peu plus de visibilité. On a l'impression, hein, c'est-à-dire entre les chômeurs qui sont en chômage total, ceux qui sont à temps partiel, etc. Et les journalistes ont tendance à reprendre maintenant les différentes catégories, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a quand même eu un progrès par rapport à 2007. C'est le sens de votre action. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les chiffres du chômage sont fiables?
Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle les chiffres du chômage. Ce qu'on disait en 2007 et ce qu'on continue à dire aujourd'hui, c'est que les seuls véritables chiffres du chômage ne sont pas ceux de Pôle emploi, mais sont ceux publiés par l'INSEE à partir d'une enquête emploi qui est la seule à pouvoir mesurer le chômage au sens internationalement reconnu. Ça ne veut pas dire que les statistiques de Pôle emploi ne sont pas inintéressantes, mais elles ne sont pas tellement intéressantes pour dénombrer les demandeurs d'emploi. Parce qu'on sait très bien que ça évolue, d'une part en fonction des comportements d'inscription. Hein, si les gens ne sont pas indemnisés, ils vont avoir a priori moins d'intérêt à aller au Pôle emploi. Et puis ça évolue aussi en fonction de la gestion administrative. Hein, si on fait pression sur les chômeurs pour occuper une formation, bon, ou si on convoque massivement des chômeurs, on sait très bien que ça va provoquer des mouvements de radiation. En revanche, il y a des informations intéressantes sur les raisons pour lesquelles les demandeurs d'emploi viennent s'inscrire ou pour lesquelles ils sortent. Et ça, c'est très peu commenté, par exemple. Il y a évidemment la question de la durée de l'inscription qui est aussi un indicateur important, mais qui est peu mis en débat par rapport à d'autres choses. Donc,
Vous avez parlé du halo du chômage, du fameux halo du chômage. Alors, qu'est-ce que c'est? Depuis la réforme de 2000, enfin, des chiffres hein, de 2007 de l'INSEE.
Oui, le halo du chômage, c'est un concept qui avait été... forgé par des statisticiens il y a déjà près de 25 ans, hein, qui était de dire ce que montre l'histoire de ce mot chômage, hein, c'est que la notion de chômage elle se construit par référence à une notion d'emploi. Et que la notion de chômage telle qu'on la mesure aujourd'hui, c'est pour aller vite du chômage à temps plein, hein, c'est-à-dire les gens qui n'ont même pas travaillé une heure dans la semaine, elle n'a de sens que par rapport à une référence d'emploi qui est au contraire très normée, c'est-à-dire qui est celle des 30 glorieuses, de l'emploi stable à durée indéterminée. Ce qui s'est passé depuis 30 ou même 40 ans maintenant, c'est qu'on a vu se développer beaucoup d'emplois précaires, des intermittences sur le marché du travail, et que donc la notion, et c'est pour ça que justement on voit se développer aussi le sous-emploi. Et que, à côté de cette notion de chômage, il faut donc, qui est toujours intéressante, hein, évidemment, il faut d'autres indicateurs pour comprendre ce qui se passe sur le marché du travail et comprendre les difficultés que les salariés rencontrent par rapport à l'emploi.
Alors, est-ce qu'il manque 1% de chômeurs, comme vous le dites, dans les statistiques de l'INSEE? C'est la question peut-être un peu brutale et orientée, mais
non,
tout de même.
La réalité, c'est qu'effectivement, à la fois sur le chômage, mais aussi sur le sous-emploi, l'INSEE a changé son interprétation de la définition du chômage du sous-emploi et ça aboutit à faire 1% de moins de chômeurs et aussi 1% de moins de personnes en sous-emploi. Donc le chiffre affiché est moins gros, donc ça diminue, disons, les choses. Mais ce sur quoi on avait insisté dans le collectif en 2007 et toujours aujourd'hui, c'est illusoire, parce que l'INSEE justifie ça pour se rapprocher d'un concept qui serait le plus pertinent, mais C'est un peu une illusion de courir après les vrais chiffres. Ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer qu'on a une série de chiffres homogènes. C'est-à-dire que savoir si ça a augmenté de 20, 30 ou 40%. Et le problème majeur n'est pas tellement sur le changement de définition du chômage que sur le changement de définition, ou d'interprétation en tout cas, la définition du sous-emploi, parce que là, l'INSEE s'est pas donné les moyens d'avoir un raccord, disons, avec la série précédente. Donc on a brutalement une baisse d'un point, et les gens qui prennent les chiffres sans faire attention ou qui ne savent pas tout simplement hein, ce que l'histoire de cette série statistique peuvent en comparant le point de 1999 et celui d'aujourd'hui penser qu'il y avait plus de sous-emploi à cette époque aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
Ludovic Bourdet de la CGT INSEE.
Maintenant, ce sont quand même des chiffres qui ont aussi leurs limites, puisque focaliser le débat uniquement sur les chiffres du chômage au sens du BIT ou sur le nombre de demandeurs d'emploi, ça a l'inconvénient de ne pas parler de tout un tas d'autres chiffres qui sont par exemple le sous-emploi, le halo du chômage, les bas salaires et d'une façon générale tout ce qui fait que les aspirations sociales des salariés ne sont pas remplies par l'emploi qu'ils occupent réellement. Il y a un organisme de concertation qui s'appelle le Conseil national de l'information statistique qui a la vertu de faire le lien entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques et de toutes sortes d'utilisateurs de statistiques. Moi, ce que je regrette, c'est que parfois, la direction de l'INSEE ne fait pas suffisamment confiance et ne prend pas suffisamment en compte les recommandations du Conseil national de l'information statistique. Voilà. Et c'est toujours des va-et-vient entre ce qui est préconisé par le Conseil national de l'information statistique et ce que la direction de l'INSEE en fait. Après, il y a aussi autre chose qui joue actuellement dans le paysage, c'est que l'INSEE a été attaqué par le président de la République. D'une part, attaqué par une critique primaire de la validité des chiffres de l'INSEE et d'autre part, attaqué comme toutes les administrations par la révision générale des politiques publiques. Et enfin, spécifiquement à l'INSEE, on a un projet de délocalisation qui nous a été imposée et qui perturbe les services, qui fait qu'il y a tout un tas de personnes qui sont occupées à préparer des transferts de travaux au lieu d'être occupées à faire des études, à faire des approfondissements, et ça, nous, on le regrette énormément.
Dernière question, est-ce que l'emploi précaire, le sous-emploi augmente au cours des 10 dernières années ?
Oui, depuis 10 ans, l'emploi précaire et le sous-emploi, ça augmente. Ce qui est dommage, c'est que ces statistiques ne soient pas publiées plus régulièrement, de façon officielle, et qu'il n'y ait pas plus d'études sur le parcours de ces personnes-là, sur les caractéristiques de ces personnes-là. C'est des choses qui sont assez peu étudiées, ou en tout cas pas assez étudiées, même s'il y a des choses qui sont faites, mais pas assez.
Ce matin est arrivé. Ce matin, à lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil.
Bonsoir, vous êtes bien sur FPP 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous, animateurs de Mode d'emploi, bénévoles et militants, faisons grève pour protester contre une censure qui s'est exercée contre nous la semaine dernière. Nous ne reviendrons pas sur les faits qui sont encore en débat à l'intérieur de la radio, mais nous vous proposons une émission sans animateur et sans invité. Vous entendrez également la suite de notre série sur le statut des intermittents, avec Antonella Corsani, économiste au CES Paris 1, qui va nous parler du nouveau modèle au-delà de l'assurance chômage, dans le cadre des journées d'études à la Bourse du Travail du 19 janvier.
Pour ceux qui ne connaissent pas trop cette histoire, la resituer. Je ne suis pas intermittente du spectacle, je suis universitaire. Et en 2004, la coordination avait reçu un financement des régions pour une contre-expertise, c'est-à-dire qu'en plein dans le conflit, il y avait eu beaucoup d'expertise commanditée par le gouvernement. Et la coordination avait demandé à pouvoir réaliser une contre-expertise. Donc, ils obtiennent un financement des régions et nous sommes mandatés pour réaliser cette expertise. Le cahier des charges était relativement simple. Il s'agissait de simuler l'impact de la réforme et, d'autre part, l'impact qu'aurait eu l'application du nouveau modèle tel que qu'Antoine vient de le présenter. Donc, au départ, on pensait que la chose était très simple. Il suffisait, étant universitaire et étant les relations historiques que l'université a pu avoir avec un service public de l'emploi comme l'UNEDIC, de pouvoir avoir accès aux données UNEDIC. Et en fait, les données UNEDIC nous ont été refusées. On peut le comprendre, c'était un moment de conflit, donc c'était difficile. Mais chose plus intéressante, c'est que par la suite, on a découvert que l'UNEDIC n'avait pas les données sur les salaires. C'est-à-dire, la variable dont nous on avait besoin pour pouvoir faire des simulations était les salaires, pour pouvoir reconstruire et voir quel peut être l'impact en termes de récomposition du revenu global représenté par les salaires plus les allocations. Mais l'UNEDIC étant un registrant des données, non pas statistiques, mais des données administratives, ne retient que une partie, c'est-à-dire les salaires plafonnés à hauteur du plafond de la sécurité sociale. Donc, on ne pouvait pas, même si on avait eu accès aux données UNEDIC, on n'aurait jamais pu utiliser ces données. Sauf bien entendu l'expert du gouvernement qui nommé par le gouvernement qui avait par la suite demandé à l'UNEDIC de pouvoir garder ces informations sur une période de 10 mois, pardon, ce qui avait permis après d'avoir une petite connaissance de la structure des salaires dans le secteur, chose qui était auparavant inconnue. Donc, pour pouvoir effectuer les simulations, on a dû mettre en place un dispositif beaucoup plus important. Au départ, on avait lancé, en même temps que le travail statistique, on avait lancé aussi un travail d'enquête. Et à ce moment-là, étant donné le refus de l'UNEDIC et en tout cas l'absence de données, on a décidé de donner beaucoup plus de consistance à l'enquête, à deux niveaux, donner la consistance. D'une part, reconstruire un échantillon représentatif, ce qui nous aurait permis par la suite, représentatif, ça veut dire qu'il est constitué de manière exactement identique à la population par rapport à un certain nombre de variables qui sont considérées comme importantes. La région, l'âge, le sexe, la tranche de nombre de sous-contrats, le niveau du salaire, un ensemble de variables. Et par rapport à cet ensemble de variables, il faut que l'échantillon soit vraiment identique à la population des intermittents. Et d'autre part, on a renforcé le dispositif d'enquête avec une rélevation des données sur les salaires et sur les revenus sur 5 ans. Donc, voilà, le contexte étant celui-là, je vais juste rappeler deux résultats. L'un, Antoine a déjà dit un mot, j'ajouterai quelque chose. L'autre, par contre, on n'en a pas parlé, c'est donc la réforme. Il faut se souvenir d'une chose, que la réforme a été portée par les partenaires sociaux au titre d'un déficit insupportable, c'est-à-dire un déficit qui donnait des valeurs de ce type, que je vous dise. Donc, les intermittents en 2002 représentaient 4,9% des chômeurs indemnisés et les allocations versées aux intermittents représentaient 3,6% des allocations. Et en même temps, les contributions en termes des charges représentaient que très peu, presque 1%. Donc il y avait un déséquilibre, ce qui veut dire que le régime de l'intermittence qui générait un déficit de l'ordre d'un milliard d'euros était à la charge du régime d'assurance chômage général. Donc c'était les autres salariés du privé qui avaient à payer ce déficit qui était quand même le plus important. Sans le déficit des intermittents, soi-disant, il n'y aurait pas eu de dette cumulée de la part de l'UNEDIC. Des choses qu'on retrouve également écrites en 2010, en décembre 2010, mêmes arguments, généraient mêmes conséquences. Alors, donc, effectivement, donc, il y a un problème de déficit. Donc, on peut s'attendre que le protocole de réforme aille réduire le déficit. Or, lorsque nous on a fait des simulations, on en est arrivé à vérifier une progression de l'ordre de 15% voire 20% des dépenses de l'UNEDIC, c'est-à-dire on avait estimé à 1,162 milliard les dépenses au titre des prestations pour allocation chômage des intermittents du spectacle, donc avec une progression de 15%. Et en fait, il s'avère que le rapport réalisé par l'inspection générale des finances, par l'inspection générale des affaires culturelles et l'inspection générale des affaires sociales en 2008 vérifie ces données et effectivement on se retrouve en 2004 avec une forte progression du déficit déterminée par une progression des prestations versées aux intermittents du spectacle exactement de même ordre. Donc, AMIA, 169 millions en 2004, avec une progression jusqu'en 2007, dernière année pour laquelle on dispose de données. Donc, la réforme avait généré un creusement du déficit. Si on regarde maintenant la simulation du nouveau modèle, on parvient à une progression des dépenses exactement identique. Ils sont équivalents en termes de dépenses supplémentaires générées par la réforme et par le nouveau modèle. Donc, on peut se poser la question, comment choisir entre deux modèles ? Et donc, je reviens sur le deuxième résultat auquel faisait référence aussi Antoine, c'est-à-dire que la réforme a comporté le basculement d'un mode, d'une logique d'indemnisation, de protection sociale à une autre. Donc, j'essaie de l'expliquer avec d'autres termes par rapport à ceux utilisés par Antoine. On peut dire que le système de protection sociale est fondé sur deux critères, hein, en réalité. D'un côté, une proportionnalité par rapport au salaire, et d'autre part, un système par lequel cette proportionnalité elle est linéaire, ce qui veut dire qu'elle va compenser là où les salaires sont plus faibles. Donc, elle agit de manière redistributive. Est-ce que je me suis expliqué? Donc, vous percevez un salaire, l'allocation que vous allez percevoir, elle est quelque part proportionnelle au salaire que vous avez touché. Donc, elle prime le fait que vous avez eu des salaires relativement plus élevés. Mais en même temps, elle prime moins les salaires plus élevés que les salaires plus faibles. Donc, elle agit de manière redistributive. Or, avec l'ancien mode d'indemnisation, vous avez que les deux forces, la force, assurantielle, on va l'appeler ainsi, elle a été compensée par la force redistributive. Donc, les deux forces se compensaient. Avec la réforme, par contre, on a engendré des coûts très élevés. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on va plus que compenser les salaires élevés. Donc, et on ne compense plus du tout les salaires faibles. Donc, la composante redistributive du modèle de protection sociale est complètement affaibli à la faveur d'un modèle de nature assurantielle que j'ai défini, après on peut en discuter si c'est correct ou pas, de capitalisation fictive. Pourquoi? Parce qu'elle préfigure quelque part, il me semble, la sortie progressive d'un système fondé sur la solidarité interprofessionnelle pour aller vers un système fondé sur l'assurance individuelle. Donc, pourquoi ça? Et là, je reviens encore sur quelques points traités par Antoine pour en spécifier quelques éléments. Donc, Antoine le disait, il y a eu, pourquoi parler de capitalisation fictive? Il y a eu certainement, en effet, l'abandon de la franchise, qui était cette période de carence pendant laquelle quelqu'un qui avait eu des revenus élevés n'aurait pas touché les indemnités chômage, puisque son revenu auparavant était très élevé. Donc c'est cet effet qui faisait que on retardait le jour où on pouvait effectivement toucher ces indemnités. Mais il y avait un autre élément qui a été introduit par la réforme, qui était le principe du maintien du niveau de vie. C'est-à-dire que c'est un mode de régulation. En fait, c'est le mode de régulation qui agit de sorte à donner plus à ceux qui avaient plus. Hein. Donc, on redistribue vers les riches, quelque part. Pourquoi je disais le système fondé sur le critère du maintien du niveau de vie? Ça veut dire que les jours indemnisables sont fonction de la comparaison entre les salaires perçus dans le mois et le salaire perçu auparavant. Donc, si auparavant, pendant le mois, mettons, de janvier, vous travaillez tous les jours, mais le salaire est moindre, vous allez néanmoins toucher des allocations. Donc, non seulement il y a abandon du principe un jour non travaillé égale un jour indemnisé, mais plus, il y a aussi un jour travaillé aussi indemnisé, sous la base de ce principe. Donc, quand on parle de capitalisation, en fait, c'est trois choses. C'était le principe dont a parlé Antoine, l'acquisition d'un capital jour, qui est égal aussi à un capital argent, véritablement, et qui veut dire aussi que si auparavant, à la fin de la période, l'année, au moment de la fin de la période d'indemnisation, si vous n'avez pas exploité tous vos droits, vous les perdiez. Aujourd'hui, quelqu'un qui a, disons, pas aujourd'hui, pardon, j'ajouterai justement qu'on n'est plus aujourd'hui, donc jusqu'en 2007, vous pouvez encore... Pardon, excusez-moi, ça c'est toujours valable. Donc, ça c'est toujours valable. Donc, vous pouvez, en fait, toucher toujours ces indemnités, même si vous avez des revenus élevés et si vous avez eu des revenus élevés. Donc, dans l'ensemble, la réforme de 2003 était une réforme qui allait véritablement dans le sens de redistribuer vers les plus riches, en sachant aussi que dans le secteur, il y a des fortes hétérogénéités. Point sur lequel je reviendrai immédiatement après. Je voudrais dire quand même un point, c'est-à-dire dont on n'a pas assez parlé peut-être, c'est que la réforme de 2007 va quand même modifier beaucoup de ces éléments, et notamment en réduisant quelque part certains, disons, en éliminant certains de ces dispositifs dits de capitalisation fictive, mais gardons néanmoins le principe de l'acquisition d'un capital jour égal à un capital argent. Et avec l'abandon de la date anniversaire, et je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Antoine. Donc, de l'autre côté, le nouveau modèle, par rapport à l'ancien régime d'indemnisation chômage, fonctionnerait véritablement de manière très redistributive. C'est-à-dire qu'il compenserait beaucoup moins l'absence d'emploi de ceux qui perçoivent des revenus très élevés. Donc, il serait fondé sur une plus forte redistribution. Donc, si la question, bien entendu, après on peut se poser des questions, si les négociateurs à l'UNEDIC étaient complètement incapables, inaptes, et que c'était une erreur commise, la réforme de 2003, néanmoins, on peut considérer qu'elle a coûté très très cher. De 2003 à 2007, le coût pour l'UNEDIC a été très élevé. Et à ce coût, il faut ajouter le coût engendré pour l'État, pour la prise en charge par l'État à travers le fonds transitoire et les fonds transitoire qui avaient été mis en place entre 2004 et 2007 pour faire face au conflit social, donc qui a permis de récupérer beaucoup de dossiers d'intermittents qui auraient autrement perdu leurs droits et qui a représenté un coût important. Donc, globalement, le coût de la réforme a été énorme. On peut considérer que c'était une folie de l'incompétence, ça c'est une possibilité, je ne l'exclus pas. L'autre possibilité, que c'était véritablement un système pervers. Il y a une philosophe que j'aime beaucoup, c'est Isabelle Stengers, qui était venue discuter avec nous. Elle avait dit « on fabrique les déficits ». Je disais « bon, les philosophes, ils disent toujours des choses étranges ». Mais en réalité, elle avait raison. On fabrique les déficits. Là, il a été fabriqué, le déficit. Il a été véritablement fabriqué. Donc, on peut se poser la question, soit c'était par incompétence, soit... Eh bien, soit il faut choisir un modèle de protection sociale, c'est-à-dire le choix s'oppose entre un modèle de capitalisation fictive, je répète, on peut discuter du terme, soit de mutualisation. Donc, mutualisation, cependant, mutualisation, aujourd'hui on parle, on n'appelle plus mutualisation, on l'appelle assistance. Donc, la question, c'est comment on glisse, les mots ne sont pas innocents. Pourquoi on glisse la mutualisation, pourquoi on appelle la mutualisation l'assistance? Et puis, donc, le modèle de par capitalisation serait un modèle qui serait fondé à chacun selon son salaire. On est bien d'accord. Ça veut dire, quelque part, un modèle qui serait fondé sur le principe que celui qui a un salaire élevé, il sera plus que compensé dans les périodes de non-emploi. Donc, ça serait un principe de mérite, on peut dire. Alors, regardons le salaire. Qu'est-ce que c'est le salaire? On en a déjà dit un mot. C'est certainement un des résultats aussi auxquels on est parvenu. En fait, les salaires dans le secteur du spectacle sont très hétérogènes. Je ne vais pas dire qu'ils sont hétérogènes entre différents intermittents. Pour un même intermittent, les salaires peuvent varier du simple au double, mais c'est beaucoup plus que ça. On a calculé, à part un 5% des intermittents pour qui il y a stabilité des rémunérations journalières, pour le restant, il y a une forte variabilité des rémunérations journalières. Cette variabilité, nous l'avons mesurée, elle peut atteindre 23 fois plus ou 23 fois moins le salaire moyen pour chacun. Ce qui est un écart immense, véritablement immense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire ne peut pas être utilisé, comme le voudraient les économistes, comme un indicateur efficace des qualités sur le marché de l'emploi. Pourquoi? Mais parce que le salaire, et là, on l'a déjà dit, le salaire, en réalité, va dépendre de la structure par laquelle on est embauché, du secteur par lequel on est embauché, et du projet sur lequel on est embauché. Alors, je voudrais rappeler quand même qu'on parle du secteur du spectacle, là où on a, et en plus, on parle aussi de marché, etc. Je voudrais rappeler quand même que dans le spectacle vivant, eh bien, 77% des entreprises sont des associations, donc on est plutôt dans l'économie dite sociale, et que, les petites structures sont majoritaires. La taille moyenne étant de 5 effectifs, mais la plupart atteignant tout au plus un seul effectif. Donc on est dans la toute petite structure, à dominante, hein, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des grandes structures. Mais quand on parle de petites structures, on parle véritablement de très 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 petites structures qui sont très fragiles et elles-mêmes très intermittentes, c'est-à-dire qu'elles sont fragilisées par l'intermittence de leur propre activité. Hein. Donc, dans le spectacle enregistré, on est dans toute autre situation. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir aussi des petites structures, qu'on puisse avoir des structures associatives, mais qui se confrontent avec véritablement des très, très grandes entreprises, notamment dans l'audiovisuel et le cinéma. Donc, dans l'audiovisuel, pour ce qui est de la télé et le cinéma. Donc, on a une réalité tellement complexe, et on sait aussi que des intermittents peuvent travailler pour le spectacle vivant, aussi pour l'audiovisuel, et glisser entre ces secteurs, ce qui justifie la forte hétérogénéité des salaires. Donc le salaire ne peut pas être pris comme une mesure de la qualité, des compétences ou de la professionnalisme de l'intermittent. Deuxième point, et puis j'essaie de conclure là-dessus. La question, qu'est-ce que serait ce nouveau modèle? Dans le titre de mon intervention, j'avais dit un au-delà de l'assurance chômage. Pourquoi? Parce que la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, on est dans une situation déjà où le chômage n'est pas un accident, c'est une situation récurrente. Donc, on pourrait dire que les intermittents sont des salariés à l'emploi discontinu ou au chômage discontinu. Bon, quelque part, il y a une discontinuité. Et parler de discontinuité, peut-être, ça nous permet de sortir du discours emploi-chômage. Et en tout cas, dans le cas des intermittents, et je pense aussi dans le cas de beaucoup d'autres salariés à l'emploi discontinu, le temps qui passe entre deux contrats n'est pas un, si c'est un temps sans emploi, ce n'est pas un temps sans travail. Donc il s'agit de qualifier qu'est-ce que c'est ces temps. C'est ce qu'on avait essayé de faire. Donc on peut dire qu'on a un ensemble de temps complexe qui se situe entre ces deux moments, hein, ou plutôt qui couvre ce temps dit de chômage. Ces temps sont les temps de travail invisible. Alors là, on peut être d'accord, il y a la question du travail dissimulé, mais après, il faudrait aussi comprendre dans quelles conditions ce travail dissimulé l'est, parce que, en tenant compte de la différence des structures dont je parlais tout à l'heure, il y a les temps de recherche d'un emploi, il y a les temps des activités exercées à titre gratuit. Pourquoi exercer une activité à titre gratuit? Et on l'a distingué des activités à titre bénévole. Parler de titre gratuit, c'est parce que, quelque part, on accepte de ne pas être rémunéré, en vue peut-être, après, de pouvoir lier une relation qui pourra produire un emploi dans le futur. Mais il y a aussi d'autres temps. C'est les temps de formation, et la formation n'est pas simplement la formation officielle, c'est aussi le temps d'entretien des compétences, etc. C'est les temps des activités exercées de manière bénévole, tout simplement parce qu'on a envie d'investir un projet qui ne pourrait pas voir le jour autrement, les temps de recherche et d'élaboration des projets et les temps pour soi. Donc un ensemble de temporalités qui se retrouve aujourd'hui fortement resserré par la réforme et par le processus dont parlait Christine de précarisation, réduit au premier temps dont je parlais, c'est-à-dire les temps de recherche d'emploi, avec une forte compression des autres temporalités. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire financer ces temps? Alors, il y a deux possibilités, et là, je m'arrête. Effectivement, ça veut dire quelque part financer ces temps, ça veut dire qu'on sort de la logique d'indemnisation chômage, mais ces temps peuvent être tirés entre deux forces opposées. D'une part, on pourrait dire, c'est des temps d'un travail ou d'une production d'une richesse produite qui n'est pas rémunérée, donc il faudrait la reconnaître par un salaire, et quelque part ça serait une sorte de reconnaissance monétaire de cette richesse qui n'est pas comptabilisée dans l'emploi. Ou alors, et là j'ouvre la piste aussi par rapport à ce qu'on pourra voir tout à l'heure avec Bernard, considérer que c'est du temps libre ou du temps libéré de la contrainte monétaire du salaire propre à nos systèmes économiques. Donc c'est dans cette tension qui se joue ce qui pourrait être le financement de quelque chose qui ne serait plus une indemnisation chômage, mais de temporalité multiple. Voilà, merci, j'espère avoir tenu. Oui.
Un cavalier qui survit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Toro, vainqueur, tu l'aides à chaque fois.
Bonsoir, vous êtes bien sur FPP 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous, animateurs de mode d'emploi, bénévoles et militants, faisons grève pour protester contre une censure qui s'est exercée contre nous la semaine dernière. Nous ne reviendrons pas sur les faits qui sont encore en débat à l'intérieur de la radio, mais nous vous proposons une émission sans animateur et sans invité.
Mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Des bisous. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Car mon petit bisounours, il adore les bisous.
En plus, il comprend rien. Mais bon, c'est mon copain.
Bonsoir, vous êtes bien sur FPP 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous, animateurs de mode d'emploi, bénévoles et militants, faisons grève pour protester contre une censure qui s'est exercée contre nous la semaine dernière. Nous ne reviendrons pas sur les faits qui sont encore en débat à l'intérieur de la radio, mais nous vous proposons une émission sans animateur et sans invité.
Il faut s'agiter la rondelle, c'est l'heure de se faire pousser l'hirsute.
Bonsoir, vous êtes bien sur FPP 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous, animateurs de mode d'emploi, bénévoles et militants, faisons grève pour protester contre une censure qui s'est exercée contre nous la semaine dernière. Nous ne reviendrons pas sur les faits qui sont encore en débat à l'intérieur de la radio, mais nous vous proposons une émission sans animateur et sans invité.
Allons-en.